l'innovation.
De l'innovation.
L'écosystème innovant.
Social innovation.
On a beaucoup d'innovation.
L'innovation. L'innovation radicale.
Pépite, c'est le podcast du MTI qui vous parle innovation et technologie d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Pépite. Je m'appelle Gaïa et je suis accompagnée d'Abdou aujourd'hui.
Bonjour Gaïa.
Nous avons le plaisir d'avoir Philippe Essling avec nous. Philippe, tu es maître de conférences à Sorbonne Université, chercheur à l'IRCAM au sein de l'équipe ACIDS, donc c'est Artificial Creative Intelligence and Data Science. Tu es à l'origine du premier logiciel d'orchestration assisté par ordinateur qui s'appelle ORCID. Donc c'est une intelligence artificielle qui est capable de générer de la musique à partir de n'importe quel son. Ça a été commercialisé en 2014 et ça a été utilisé par un bon nombre de compositeurs. Donc merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Donc pour commencer, il me semble, corrige-moi si j'ai tort, ORCID, c'est le résultat de 15 années de recherche. Est-ce que pour commencer le podcast, tu peux un petit peu nous raconter l'histoire d'ORCID, donc c'est-à-dire de l'idée au développement, ton rôle dans l'aventure, nous explique comment ça fonctionne, les grandes lignes.
Ok, lourde question pour commencer. Alors... L'idée, c'est que déjà, il faut savoir le contexte un petit peu de l'IRCAM. Donc l'IRCAM, c'est le laboratoire où je travaille. C'est un peu un lieu unique et ça explique beaucoup en fait le développement de ce logiciel. C'est qu'en réalité, on part d'une idée qui va être un peu folle et qui va être généralement... l'idéation provient des compositeurs. C'est-à-dire on préfère mettre l'accent sur vraiment partir d'une idée aussi farfelue soit-elle. Et l'IRCAM, c'est un endroit un peu unique parce que ça rejoint dans une même équipe. On va trouver des compositeurs, des ingénieurs du son, on va trouver des scientifiques, des mathématiciens, des informaticiens, des programmeurs, etc. Donc c'est un peu un lieu de confluence. Et je pense que ça, c'est très important d'insister sur cette notion d'interdisciplinarité. Parce qu'en fait, ce logiciel, à la base, la vraie idée pour rendre l'idée originelle, elle vient de Yann Maresch. Qui est un compositeur contemporain hyper intéressant, qui a fait vraiment de très belles œuvres. Et donc lui, son idée, c'était à la base d'essayer de retranscrire n'importe quel son. Donc est-ce qu'on peut prendre un son et est-ce qu'on peut essayer de le reproduire en associant des instruments entre eux ? Donc la question, tu vois, c'est est-ce qu'on peut arriver à reproduire n'importe quel son de la nature ou même artificiel ? Juste en combinant des instruments, mais pas uniquement, parce que tu vois, on peut faire ça artificiellement avec un ordinateur, c'est-à-dire tu prends des bouts de sample, tu fais de la granulation, il y a énormément de techniques pour refaire de la synthèse. Là, le vrai défi, en fait, c'est d'arriver à faire ça avec des instruments qui seront ensuite joués par des humains. C'est-à-dire, ce qu'on veut produire, c'est une partition. Donc, l'idée est venue de ce rêve un peu fou, et ensuite, il y a eu, en fait, énormément de travaux de recherche, parce que, en fait, personne n'avait jamais essayé de faire ça. C'est-à-dire, la question est très... Il y a une combinatoire sous-jacente au problème. Donc, quand je dis combinatoire sous-jacente, ça veut juste dire, si vous pensez au nombre de combinaisons possibles entre deux choses, donc si deux choses ont certaines possibilités, vous devez multiplier le nombre de possibilités de l'une par l'autre. Et ensuite, à chaque fois que vous en ajoutez une, ça monte de manière exponentielle. Donc, vous allez avoir de plus en plus de possibilités. Donc, ça, dans la combinatoire, il y a des problèmes qui sont dits NP complets. NP complet, ça veut dire que c'est un problème. Par exemple, je pars dans tous les sens, hein. mais si jamais vous cherchez l'année prochaine, vous avez envie de faire un road trip de ouf, c'est la fin du confinement, c'est la teuf, on a envie de se balader en France, trouver le chemin optimal entre 12 villes, ça se fait en quelques secondes, entre 13 villes, ça commence à prendre des minutes, et je crois que dans l'ordre de 20 villes, ça prend l'âge de l'univers pour arriver à trouver le chemin optimal, c'est-à-dire celui qui vous coûtera le moins cher en termes de voyage d'une ville à l'autre. Donc là, on est dans le même genre de problème où en fait la combinatoire paraît, au début on se dit c'est pas trop grave si on en a 2-3, mais quand on réfléchit à la capacité d'un orchestre, c'est-à-dire 100-200 instruments qui jouent en même temps, en fait on a des possibilités quasi infinies. Donc mon rôle dans tout ça, c'était, alors moi je suis un gros nerd, voilà, c'est dit, je suis un geek. À la base j'ai une formation plutôt mathématique informatique, donc j'ai fait des études de maths puis de programmation en même temps. Et donc, ce que j'ai fait, c'est plus du développement vraiment théorique par rapport à ce problème. Donc moi, mon dada un peu, c'est les séries temporelles, donc c'est-à-dire l'analyse des choses qui évoluent dans le temps. Donc et ça, c'est une question qui est forte en musique, parce que on peut se dire que la musique, ça n'existe pas sans le temps. Parce qu'en réalité, la musique, ça, je ne sais pas si vous connaissez Pierre Schaeffer.
Moi, je ne connais pas. Abdou, je ne sais pas si tu connais. Non.
Ok. Bah alors pour nos auditeurs,
pour ceux qui n'y connaissent rien,
j'ai le droit de faire ça moi.
Oui, bien sûr.
Bien sûr.
Normalement c'est un truc de présentateur, je veux pas, je veux pas me marcher sur vos plates-bandes. Mais donc pour tous nos amis auditeurs, Pierre Schaeffer c'est celui qui a créé un courant qui s'appelle la musique concrète. La musique concrète, c'était l'idée de se dire que n'importe quel bruit peut devenir musical à partir du moment où il est organisé dans le temps.
Ok.
Et en fait, là, maintenant, ça nous paraît clair. Je veux dire, on écoute tous de la techno, de la lourde électro en club, tout ça, ou même des sons assez bizarres. Enfin, maintenant, les gens sont plus habitués à entendre des bruits et les intégrer dans des musiques. Mais en fait, Pierre Schaeffer, il a fait ça dans les années 30-40. Et dans les années 30-40, arrivé avec une traque de techno, je pense que c'était un peu le bûcher. Donc, c'est un des pionniers de ce courant. Donc de musique concrète, il a fait des études pour train, par exemple, c'est-à-dire prendre des bruits de train et genre les coller et en les assemblant, en fait, ça donne la rythmique, crée un aspect musical. Quoi. Voilà.
Justement, on a une piste audio qu'on peut passer pour illustrer le propos. On va la mettre tout de suite. Donc ça, c'est le bruit avant et ensuite, après, ça a donné ça. Donc ça, c'est ce que tu peux faire avec le logiciel, c'est ça ?
Alors non, ça c'est un truc totalement différent.
D'accord. Eh ben, tu peux nous expliquer aussi, alors dans ce cas-là.
Alors ça, en fait, c'est un truc très récent sur lequel on bosse avec mes chers doctorants. Donc on est toute une équipe, hein. Acid, c'est à peu près 10 personnes. Et en fait, Orchid, c'est vraiment, tu vois, tu prends n'importe quel son et t'assembles des instruments réels pour recréer ce son. Là, l'extrait qu'on vient d'entendre, en fait, c'est un truc encore plus récent et un peu plus perché. L'idée, c'est que c'est un système où tu vas juste chanter et ça va transformer ta voix. Donc là, vraiment, c'est purement synthétique. C'est-à-dire que ce violon n'a jamais existé. C'est pas quelqu'un qui joue. C'est une IA, en fait, qui va... Bon, je simplifie IA, on pourra en parler plus tard. En réalité, c'est du deep learning probabiliste. Voilà. Et donc, l'idée, c'est... Est-ce que tu peux contrôler des violons, par exemple, juste avec ta voix ? Donc, tu chantes et en fait, l'algo va transformer ta voix en violon automatiquement.
Est-ce que l'IA qui fait fonctionner Orchid, est-ce que elle est capable de créer ou de composer elle-même toute une pièce ?
Ah, alors ça, c'est une super bonne question, dans le sens où non, pas du tout. Ça, c'est la réponse courte. Ouais. L'idée, c'est vraiment... En fait, c'est là que le je pense que le paradigme est intéressant parce qu'il y a une différence entre reproduction et idéation. Okay, donc, on voit souvent les IA en se disant bah, ça va créer des choses tout seul, etc. Sauf qu'en réalité, Orchids, c'est juste une partie de nos recherches et celle-là, c'est vraiment de la reproduction dans le sens où on essaye de trouver quelque chose qui sonne vraiment comme l'original. Et là où ça devient intéressant, c'est que c'est un système qui s'appelle multi-objectif. Ça veut dire qu'il ne va pas te proposer une solution, ça va te proposer un ensemble de solutions dans lequel tu peux choisir. Donc c'est quand même quelque chose qui a une certaine variance, mais ça ne compose pas tout seul, tu vois, ça te donne des idées, et ensuite c'est à toi d'aller utiliser ces idées pour faire une composition.
Et pour qu'une IA, ensuite, elle devient créative, qu'elle soit, elle, novatrice, créatrice de musique ou autre œuvre d'art d'éléments que nous, humains, qu'on qualifie comme créatifs, en fait, qui nécessitent un peu cet aspect humain que nous, on comprend, et que les ordi, j'espère qu'ils ne comprennent pas encore pour le moment trop. Du coup, parce qu'on a fait quelques recherches avant de parler avec toi, et on a trouvé que j'ai lu un truc intéressant qui disait que pour que l'IA devienne créative, elle doit apprendre les règles, puis comment les briser. Et les nouveaux systèmes d'intelligence artificielle, ils utilisent des réseaux contradictoires pour développer de la créativité et de l'originalité en mélangeant et faisant correspondre plus facilement les informations du monde réel.
Ouais. Alors, c'est bien, il y a 5 questions dans ta question.
Désolé.
Non, t'inquiète, c'est hyper... Enfin, c'est passionnant comme thème, à tel point qu'en fait, bon, j'aime pas trop aller dans la pédanterie jusqu'à me citer moi-même, mais on a écrit récemment un article avec Ninon Devy qui s'appelle « Creativity at the Era of Artificial Intelligence », qui adresse cette question d'un point de vue plus sociologique, parce que c'est une question qui me passionne. Tu vois, il y a toujours ce schisme un peu où on se dit que bah, La créativité, c'est un domaine purement humain. Donc, je vais commencer par ta première partie de question, qui est comment on peut dire qu'une IA est créative. En fait, moi, je pense qu'on ne peut pas, et ça n'a pas d'intérêt. Et je m'explique là-dessus. C'est un peu le principe de l'article qu'on a écrit, donc j'invite les gens à les lire s'ils ont le temps, où l'idée, c'est qu'en fait, on voit énormément la créativité du point de vue du contenu, c'est-à-dire la nouveauté et la qualité des idées. Sauf qu'en réalité, la créativité, il y a un aspect contextuel sociologique extrêmement fort. C'est-à-dire que la créativité, elle s'insère dans une époque. J'en reprends mon exemple de Pierre Schaeffer ou de la techno. Tu vois, la techno, elle n'a aucun sens au XVIIe siècle. Elle n'aura sûrement plus aucun sens au XXIIe siècle, on va dire, mais c'est quoi cette musique de vieux ? Ok ? Et donc, le problème, c'est que une IA, en tout cas, sans contextualisation sociologique, n'aura aucune chance d'avoir une vraie percée créative, vu qu'elle n'est pas incrustée dans son époque sociale. C'est, je pense, là, le paradoxe, on va dire, d'une certaine manière, et l'autre chose qui me fait un peu peur dans ces approches, enfin, qui me fait peur, non, vu que je participe au truc, donc ça serait con, mais disons que le gros problème, c'est que beaucoup de personnes se servent de la capacité de l'IA à générer énormément de données, sauf qu'elle le fait par imitation. Et donc là, on perd toute cette notion de créativité. Et donc, la dernière partie que tu as citée, qui était hyper intéressante, les réseaux antagonistes, en fait, c'est j'imagine, ça voulait dire des réseaux adversariaux génératifs, donc les GAN, Generative Adversarial Networks. C'est le truc dont on entend parler énormément en ce moment. Et en fait, je pense que, tu vois, il y a un paradoxe de la singularité derrière. Le paradoxe de la singularité, c'est de dire, on veut une IA qui soit quelque chose qui nous surprenne, mais en même temps, si ça nous surprend trop, on est incapable de comprendre ce qui se passe. Tu vois, le problème, c'est qu'on veut que ça génère quelque chose. Ce quelque chose doit être suffisamment proche de ce qu'on connaît pour être content, mais si c'est trop proche, c'est chiant. Et donc, tu vois, on chasse une espèce de fausse singularité où on veut du nouveau, mais on veut du nouveau qu'on comprend, quoi.
Mais tout à l'heure, tu parlais justement de l'accumulation de données. Et j'avais une question par rapport à ça, parce que les intelligences artificielles en musique, elles ont une capacité d'accumuler des données qui sont énormes et à les analyser aussi. Je pense par exemple à Spotify qui va répertorier ce que tu écoutes, te faire des playlists, etc. Et quand on voit aujourd'hui, par exemple, de quoi sont capables tous les algorithmes dans le marketing ciblé, on peut se dire qu'en fait, dans quelques années, les intelligences artificielles, elles vont connaître nos goûts, elles vont être capables de nous connaître super bien. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas des risques que les albums des prochaines années soient trop calibrés sur l'auditeur, au risque de perdre un peu la créativité humaine si on utilise justement l'intelligence artificielle ?
Oh, mais c'est déjà le cas, hein ?
Ouais, c'est vrai. Carrément,
ouais. Désolé, je voulais... C'est un peu efficace.
Non, mais 100%.
Mais tu vois, t'es un peu d'accord. Enfin, le truc... C'est très problématique. Je pense qu'en fait, il y a une tendance qui prédate, tu vois, les bonnes intelligences artificielles à faire de la... je vais le dire, à faire de la merde. Et à faire, tu vois, de la merde.
Vas-y.
Je veux dire, faut être honnête, c'est une tendance énorme dans le marketing musical. On a même fait des émissions de télé où on choisit la personne dont on va acheter l'album. Enfin, tu vois, je veux dire, la médiocrité musicale, elle est là depuis longtemps. Et elle est là aussi dans d'autres trucs. Ce qui me fait, là où tu as totalement raison et où c'est un peu dangereux, où il faut être très attentif, c'est que ça peut accélérer ce phénomène. L'IA, je pense, n'est pas responsable du phénomène de la normalisation musicale ou du fait que, tu vois, nos goûts soient ciblés, calibrés déjà, tu vois, un peu polis, arrondis. Ce qui est intéressant, justement, c'est que je pense l'IA, elle peut permettre de transgresser certaines choses dans les capacités que certaines personnes auront de créer de la nouvelle musique. Mmh. Là où je suis totalement d'accord avec toi, c'est déjà une tendance qu'on voit. Tu as Spotify, par exemple, l'algo qui propose de la musique, c'est déjà une IA, en fait. Il y a déjà plusieurs algos différents qui sont là pour analyser tes patterns d'écoute, analyser les patterns d'écoute de tout le monde et les mettre en lien pour essayer de te faire aimer les mêmes choses que les autres gens. Et même, tu as une division chez Spotify qui essaye de faire de la génération automatique pour qu'ils aient plus besoin de payer des droits d'auteur. Ouais. Donc voilà, tu vois, ce côté un peu négligent de la musique comme un produit, bon, il est déjà là. Là où c'est cool, c'est qu'en fait, en réalité, les grosses percées musicales, ça se fait jamais comme ça. Et donc, à contre-courant, tu auras toujours, je pense, des choses qui viendront et qui naîtront, comme on disait sur la question d'avant, où l'idée, c'était qu'on doit apprendre les règles pour les briser. Donc là, la question, tu vois, c'est clairement, il y a toute une recherche qui se fait sur l'éthique de l'IA, et notamment, j'aborde un peu le sujet, même si j'essaye de rester très grand public, l'IA, elle travaille en minimisant une erreur moyenne. Et moi, c'est ça la grosse problématique que j'essaye d'attaquer dans mes recherches, c'est comment on peut faire pour éviter justement de perdre ces points qui sont en dehors de la moyenne. Parce que tu vois, tu essayes d'optimiser un truc, c'est-à-dire c'est un peu comme une boule, et donc si tu te rapproches du centre, ça marche vachement bien, et tous les points qui sont autour, tu ne vas pas t'en occuper parce qu'ils sont trop loin. Donc c'est-à-dire que tu essayes de minimiser un peu la moyenne de tout ton ensemble. Et c'est là que tu vois, il faut être très attentif parce que ça peut faire... Bah d'ailleurs, sur Spotify, je crois qu'il y a un truc qui s'appelle le cold start problem ou le long tail. C'est-à-dire que des nouveaux artistes qui arrivent sur Spotify, comme personne ne les a écoutés, l'algo utilise les ressemblances entre les écoutes. Donc tu vois, si personne n'a écouté ce truc, il ne sera même pas considéré par l'algo, il ne va jamais le proposer.
Après, c'est vrai que l'intelligence artificielle, ça peut aussi permettre... Enfin, en tout cas, plutôt les logiciels de composition, ça peut aussi permettre de démocratiser la production musicale. Par exemple, je pense au rap. C'était les logiciels de musique assistés sur ordinateur. Et ça a permis à plein de gens qui n'étaient pas des grands compositeurs de produire plein de trucs au niveau du rap, par exemple. À l'autotune aussi, avec toutes les chansons T-Pain, etc. Bon, alors, c'est encore un autre sujet. Mais...
Non, alors là, j'étais à 2000% avec toi sur tout le début de ta phrase et à autotune, j'étais stop.
Désolé, j'ai vachement du mal avec l'autotune.
Ouais, non, mais le pire, c'est qu'en fait, il y a des trucs. Depuis, tu vois, et ça, c'est. Bah, t'as pris un exemple qui est juste magnifique. Bon, déjà, dans le rap game, clairement, tu vois, tout ce qui a été. Les boîtes à rythme, etc., les synthés, c'est le truc qui a juste ouvert la prod musicale de ouf. Et ça, c'est trop bien. Et avec l'IA, ça devient encore plus facile. Je pourrais vous envoyer aussi des. Enfin, il y a pas mal de logiciels où, tu vois, tu peux composer de la musique, même si t'as aucune théorie derrière. Et ça, c'est le truc qui, moi, me semble vraiment fascinant, c'est le moment où la musique va devenir ultra personnalisée, au point où n'importe qui peut composer sa propre musique, tu vas prendre des musiques existantes et les retransformer à son goût. Donc je pense que ça, c'est un chemin qui est vraiment passionnant, la démocratisation. Et donc l'exemple de l'autotune, c'est le moment où tu vois même les... Parce que ce qui a marché vraiment dans l'autotune, en fait, c'est les trucs qui chient. Enfin, pardon, c'est les trucs qui ne marchent pas très bien. C'est les trucs, tu sais, où t'as des décrochages et tout, et en fait ça, c'est une erreur de l'algo. En fait, à la base, l'algo, il était fait pour recalibrer, et là où il est devenu créatif, c'est quand on a pris ces erreurs et qu'on a fait une esthétique à part entière.
C'est ça, parce que je crois que l'autotune de base, c'est fait pour gommer les fausses notes, en fait.
C'est ça. Ouais. L'autotune, c'est vraiment censé être recalibré, tu vois, ta voix. Si jamais je fais tu vois, avec un décrochage, il va juste lisser. Et en fait, quand tu le pousses aux limites et que tu mets des réglages complètement nuls, ça va juste complètement quantifier ta voix à faire des trucs genre qu'on entend tout le temps. Bon, je suis moyen fan, mais bref, c'est quand même intéressant, quoi.
Je comprends. En fait, je continue un peu sur cet aspect de musique un peu, du coup, qui réussit, etc. Qui réussit en termes publiquement entre les gens normaux où on peut se dire « Ah oui, ça, il a une belle voix, ça, c'est un bon son, on aime bien ». Je comprends qu'il y a les facteurs de la subjectivité et du goût qui sont importants et que c'est pas en fait un simple problème d'efficacité ou de input qu'on peut mettre pour un algorithme pour sortir quelque chose. Mais quand même, je pense si on analyse les gros hits de musique, si on analyse les beats, les rythmes, les tempos, etc. Je pense qu'il y a déjà des travaux sur ça en plus. On trouvera beaucoup de points communs entre les gros hits de musique. Du coup, la question est-ce que la musique qui réussit et qui a du succès avec le public, est-ce que c'est de la créativité et de l'art ou est-ce que c'est une science précise et science exacte?
C'est un peu épineux comme question parce que j'ai envie de dire oui et non. C'est surtout, tu vois, j'ai envie de le séparer en deux. D'un côté, il y a un truc à prendre en compte, la musique, c'est quand même un domaine qui est très codifié. Disons que même si on s'éloigne de plein de choses, tu vois que la musique, j'entends, musique occidentale, tu vois, par exemple, il y a l'échelle des fréquences, elle a été codifiée déjà il y a très longtemps, et donc elle est basée sur déjà un ensemble de normes, même la rythmique 4-4, etc., etc. Quels que soient les types de musique, tu vas retrouver des codes, des codifications musicales. Tu as aussi cette notion de tension-relaxation, tu vois, donc il y a quand même derrière la construction musicale, tu as forcément un système Et bah, tu peux pas écouter du bruit blanc et faire « Oh mon Dieu, du bruit blanc, c'est génial !» quoi. Enfin, quoi que si, mais ça, c'est une autre question. Mais là où la question devient plus épineuse, c'est encore une fois, tu vois, sur cette notion de contexte social. C'est-à-dire, moi, un truc, bon, j'ai un pote qui a un argumentaire, c'est un pote qui est musicologue, il a un argumentaire de ouf que je trouve trop cool, où en fait, toutes les grosses percées musicales sont venues avec des percées sociales. C'est-à-dire que, tu vois, à une époque, les gens, si tu prends le punk rock, si tu prends même le hip-hop, si tu prends le rock psyché, etc., toutes les grosses révolutions de l'ère musicale de ce siècle, ça s'est accompagné d'un mouvement social. Et tu as eu généralement des gens qui travaillaient dans un garage et qui faisaient des trucs dégueulasses, qui étaient nuls. Et en fait, ça s'est cultivé dans des petites sphères sociales qui, genre, ont mûri jusqu'au point où d'un coup, quand ça a éclaté, ça a éclaboussé le monde entier. Parce que c'est devenu un son tellement différent, tellement mature, que ça a transformé, tu vois, certaines aires. Et donc là, le truc qui est un peu plus difficile dans cette notion de trouver des points de rapprochement entre des hits, on va dire, c'est de savoir est-ce que, bah, tu vois, ça se mord pas un peu la queue, de dire est-ce que le hit est généré parce qu'il suit la codification de l'autre hit, ou alors est-ce que les deux hits sont deux entités séparées dans lesquelles on doit trouver des points communs.
Et du coup, j'ai une autre question. Maintenant, j'essaye de retourner un peu vers Orchids. Mmh. Et même au-delà des projets futurs que vous pouviez avoir dans votre tête, un peu des rêves, disons. Non, comment est-ce que vous imaginez le futur avec la musique, l'IA? Comment est-ce que même... c'est quoi vos préférences pour ce futur-là? Il ressemble à quoi dans la scène de la musique?
Ouais, alors mes préférences, ça serait un peu totalitaire, tu vois, la musique. C'est un peu dur de dire mes préférences parce que j'ai l'impression de faire dans le diktat et la musique, c'est l'inverse. Non, parce que, enfin, c'est vrai que, honnêtement, je pense qu'on va vers une pluralité des styles. Et donc, là, tu vois, de plus en plus, et ça rejoint ce que disait Gaïa tout à l'heure, que je trouvais magnifique, qui était la démocratisation. Et la démocratisation, elle est clairement en train de prendre le pas. Pour moi, le futur de la musique sera quelque chose d'ultra personnalisable au point de même changer les musiques proposées en temps réel. Donc, c'est-à-dire de pouvoir carrément ajuster les musiques qu'on te propose à ton propre goût sur des niveaux, tu vois, un peu méta ou vraiment... ça, c'est toute la partie, on va dire, dans la transmission de la musique. C'est-à-dire que, pour moi, le rêve ultime, c'est que tout le monde fasse de la musique. Et donc, que la musique, ça soit, limite, un état permanent et que ça vienne d'une espèce de mélange complet de genres. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir ce qui se passe dans la musique contemporaine, même si, aujourd'hui, c'est toujours très abscon, tu vois, mais la musique contemporaine des années 1930-40, c'était le minimalisme et la musique concrète qui, au final, ont posé les bases de ce qu'est la techno aujourd'hui. Ouais. Et donc, si tu regardes dans la musique contemporaine d'aujourd'hui, ce que tu trouves, c'est énormément de travaux sur les bruits et la temporalité. Et donc, je pense vraiment qu'on va vers une acceptation plus large de sons un peu fou. Donc ça, clairement, j'ai hâte que tout le monde écoute du noise, mais... Ça risque pas d'être pour demain, mais un jour peut-être.
Tu penses qu'on pourrait faire un album uniquement composé avec que des bruits bizarres?
C'est pas l'ASMR déjà?
Ah non, mais il y en a plein. Ah, ouais,
un peu l'ASMR, ça.
Ouais, l'ASMR, mais t'as aussi tout un courant vraiment qui s'appelle Noise. Notamment, moi, un mec que j'aime bien, c'est Merzbo. T'as plusieurs albums, même... En fait, il y a tout un courant dans la musique concrète qui s'appelle la... Klangfarben Melodie. C'est ce qui veut dire la mélodie des couleurs de son, je crois. Et en gros, la Klangfarben Melodie, c'est juste une manière d'utiliser les sons par rapport à leur temporalité pour créer des contrastes. Donc c'est quelque chose, c'est la mélodie du timbre, c'est extrêmement codifié. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est de se dire que les choses qu'aujourd'hui on considère extrêmement bizarres, ça sera la musique classique dans 200 ans, quoi.
C'est un peu ma question suivante. Tout à l'heure, tu disais que les nouveaux genres musicaux, c'était accompagné de mouvements sociaux. Mmh. J'imagine que c'était aussi, du coup, des transformations technologiques. Par exemple, la guitare électrique avec le rock, les boîtes à rythme avec l'électro, l'autotune aussi, malgré nous. Est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle, ça pourrait faire évoluer la musique? Bon, du coup, j'imagine que oui, avec le noise dont tu as parlé. Mais est-ce que ça pourrait carrément créer de nouveaux styles musicaux qui soient écoutés par tout le monde?
Ouais, j'en suis complètement persuadé. Mais en fait, là où c'est intéressant, c'est que tu vois, pour moi, c'est pas l'IA en tant qu'objet qui lui-même, elle-même, enfin, j'aime pas la genrification, mais bref, que l'objet même va pas créer, tu vois, ex nihilo, la chose. Mais par contre, en tant qu'outil, comme tu l'as si bien dit, la guitare électrique, l'arrivée des synthétiseurs, ça a été des révolutions dans le domaine musical. Et là, c'est clairement, on est à peine en train de gratter la surface des possibilités qui seront offertes par l'IA, mais ça va clairement devenir un outil qui, à mon avis, permet certaines choses qui vont bouleverser le panorama musical.
Un peu sur le même point de Gaïa, un truc parallèle que j'ai lu déjà. En fait, je sais pas si je suis un peu sur la bonne voie ou non en termes de réflexion, mais j'avais lu que chez Facebook, par exemple, ils avaient commencé un projet où deux bots intelligents, ils devaient collaborer ensemble pour faire une tâche. Et donc, ils communiquent ensemble au début de la façon dont ils ont été appris et que nous, humains, on comprend. Mais petit à petit, ils ont créé leur propre langage et moyens de communication qui, pour eux, étaient plus efficaces, mais que nous, on ne comprenait pas du tout. Et du coup, c'est un peu sur la même voie que Gaïa, où en mode, est-ce que l'IA, elle va peut-être un jour créer des nouveaux genres, des nouveaux musiques, quelque chose qu'on n'a jamais écouté, que nous, on ne comprend pas encore, et que l'IA, elle comprend, elle dit, ah non, mais vous ne comprenez pas, vous comprenez pas encore, mais ça, c'est agréable. Ça, c'est quelque chose.
Ouais, non, c'est super intéressant. Alors, par contre, je l'aurais découplé de cet exemple parce qu'en fait, il y a eu un petit côté hoax, tu vois, dans cette histoire. Ah. Elle a fait pas mal de bruit. Ouais. Non, c'est vraiment ce qui s'est passé, mais en fait, ça a été un peu déformé dans le sens où, en réalité, le langage qu'ils ont créé, c'est plus, tu vois, une dérivation qui s'est faite où, au final, ça a perdu de son sens, mais eux comprenaient parce que c'était, par exemple, des répétitions pour dire cinq choses, ils allaient remettre le mot cinq fois. Ah. Tu vois, ce genre de petits exemples où clairement il y avait des cas où ça devenait incompréhensible. Par contre, tu vois, je l'aurais pas linké à cet exemple, mais la question générale est super intéressante parce que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Tu vois, c'est le moment où l'IA va vraiment être créative, où on pourrait dire que l'IA est créative, c'est le moment où justement on va se dire elle est complètement tarée. Et c'est généralement ce qui se passe quand tu vois les grandes révolutions musicales. Ça a été aussi des gens qui ont composé des trucs et les plus grands artistes ont été complètement déchus dans leur temps, quoi. Où, au final, socialement parlant, les gens se disaient « Mais c'est quoi cette folie, là? Dégage avec ton truc chelou !» Et c'était incompréhensible. Donc ouais, ça, je pense qu'en fait, on peut déjà même y être, parce qu'en fait, tu vois, là, récemment, on bosse, nous, beaucoup, comme je disais au tout début de l'émission, on bosse énormément avec des compositeurs. Et la première chose, quand tu files un objet à un compositeur, c'est qu'il va essayer de le faire foirer. C'est insupportable, mais en même temps, c'est génial. Tu vois, c'est genre, tu fais un truc tout poli, tout bien, qui marche bien et tout. Tu lui dis, voilà, faut tourner ça comme ça. Et premier truc qu'il fait, c'est qu'il rentre n'importe quoi et tu lui dis, non, fais pas ça et tout. Et donc, les modes d'erreur, je pense que c'est là où vient la créativité, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Bah, par exemple, l'acid techno, il y a plein de trucs qui sont nés d'erreurs. L'acid techno, c'est un mec qui a fait tomber sa boîte à rythme, enfin sa TB, et c'est devenu un son tout distordu. Et il a fait « Ah, oh, c'est génial !» et tout, pareil. Tu vois, tous les trucs, c'est un peu de la sérendipité, quoi. La question de la sérendipité, elle va se poser énormément avec l'IA, à savoir quand. Moi, je pense que c'est déjà le cas, tu vois. Il y a déjà des cas où, à mon avis, on comprend juste pas ce qu'elle fait parce qu'on n'a pas des capacités d'appréhension nécessaires. Mais un jour, peut-être, on reviendra en arrière et on fera « Waouh, en fait, ça, c'était génial, quoi. »
C'était novateur.
Ah ouais, c'est ça.
Moi, j'ai deux questions en une. La première, c'est est-ce que c'est pas compliqué de travailler avec des compositeurs qui sont pas forcément à l'aise avec tout ce qui est outils, algorithmes, logiciels, etc. Est-ce qu'ils voient pas ça comme un frein un petit peu à leur créativité? Et ensuite, est-ce que vous travaillez aussi avec d'autres gens que des compositeurs? Est-ce que ça peut servir pour le cinéma, la pub, des comédies musicales?
Ouais, absolument. Alors, trop intéressant. Déjà, pour revenir un peu en arrière, les compositeurs qui viennent à l'IRCAM, généralement, ils sont quand même plutôt du côté technologique. Donc c'est vrai qu'on a un peu la vie facile. Enfin, moi j'ai un peu la vie facile parce que genre, les compositeurs qui arrivent sont souvent quand même des gens versés. Mais ça, c'est un truc que je kiffe dans notre société actuelle. Enfin, j'aimerais tendre à cet idéal de société où les gens sont versés dans plusieurs domaines. Tu vois. Ils restent pas cantonné sur le domaine purement musicologique. Et je pense qu'honnêtement, c'est intéressant d'avoir ce schisme qui se crée entre quelqu'un qui voit les choses d'une manière purement technique et quelqu'un qui voit les choses d'une manière purement romantique, où au final, tu vois, le clash des deux est hyper intéressant. Là, récemment, je bosse avec un compositeur qui s'appelle Alexander Schubert, qui va sortir une pièce d'ici peu où il utilise toutes nos dernières technologies. Et ce mec est génial dans le sens où il comprend très vite, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est justement ce que j'appelle le recyclage créatif. C'est-à-dire, tu donnes un objet qui a certaines propriétés et toi, tu as des théories derrière, mathématiques très bien posées. Et lui va venir et il va foutre un bordel innommable dedans. Et c'est là que tu vas avoir la vraie créativité, quoi. Pour la deuxième partie de ta question, l'IRCAM, on bosse énormément en fait avec le cinéma, plus pour tout ce qui est traitement de la voix, etc. Donc, historiquement, l'IRCAM avait travaillé sur le film Farinelli, par exemple, parce que Farinelli, c'est un castrat, et donc de nos jours, trouver un castrat, c'est pas évident. Et donc l'acteur, on n'allait pas lui demander de se castrer pour faire le rôle. Donc l'idée, c'est qu'il fallait modifier sa voix pendant tout le film. Et ça a été pareil, je crois qu'ils ont gommé l'accent anglais de Gérard Depardieu. Enfin, tu vois, il y a eu pas mal de travaux, mais c'était plus sur l'aspect voix. Nous, de notre côté, pour l'IA, on bosse vachement plus sur tout ce qui est jeux vidéo, par exemple. Tu sais, génération de musique perpétuelle pour des MMORPG ou ce genre de trucs.
Okay.
Donc, ouais, il y a de l'intérêt, il y a même de l'intérêt militaire, même si j'ai grave du mal avec ça, mais...
C'est dingue, ouais. Je savais pas qu'on pouvait lisser des accents en film. C'était toujours un petit peu ce que je m'étais toujours posé la question en regardant des films. Mais comment ils font pour avoir des accents comme ça? En fait, t'as des logiciels qui s'occupent de ça?
Ouais, ouais. En fait, tu fais de la post-prod. En fait, c'est un peu comme un autotune du langage, quoi.
Ok.
Bon, l'idée, c'est après, il y a quand même pas mal d'interventions humaines. C'est-à-dire, t'as un algo qui va faire un premier travail, mais t'as quand même toujours quelqu'un derrière. Et c'est pareil, tu vois, tous les trucs de ouf qu'on entend avec l'IA maintenant, genre, t'as des résultats très cool, qui sont des résultats, on va dire, enfermés en eux-mêmes, tu vois. Mais ensuite, quand t'entends le truc là qui me vénère, mais bon, bref, c'est mon problème, genre, ils ont terminé la symphonie inachevée, et ça a fait du bruit, etc. Et sauf que quand tu regardes entre les lignes, c'est écrit avec l'aide de 4 compositeurs, dont un mec qui a reçu des prix et tout. Donc c'est là que tu vois qu'en fait, l'IA... généralement, elle va produire des propositions et ça reste quand même un travail humain derrière de faire en sorte que ça soit quelque chose de propre.
Alors malheureusement, du coup, on arrive presque à la fin de notre émission et on avait une question pour toi, une dernière question. Si tu avais pu composer une musique qui existe déjà, laquelle ça serait?
Ah oh, ouais, wow, c'est trop dur. Ah ouais, oh, wow, c'est trop dur. Ah ouais, c'est chaud. Ah, c'est chaud. J'ai envie de partir. J'ai envie de faire le mec intelligent et dire un truc hyper intellectuel, tu vois.
Vas-y, vas-y.
Non, mais le pire, c'est que j'ai envie de dire ça, mais d'un autre côté, j'ai envie de dire des trucs aussi complètement débiles.
Bon, tu peux faire deux réponses. Alors, une intelligente et une un petit peu plus stupide.
Ok, alors si je voulais faire le mec intelligent, j'aurais dit Partiel de Gérard Griset, qui est pour moi une des... Juste pour expliquer vite fait, Partiel, c'est... une pièce qui a été composée en jetant des objets, en explosant des trucs, et ensuite en dilatant le temps jusqu'au point où le son est hyper lent. Et ensuite, c'est des instruments qui reproduisent chacune des harmoniques de l'explosion. Et donc, en fait, c'est comme si tu vivais à l'intérieur d'un temps qui est quasiment fixé, quoi. Ça... Ouais, c'est magnifique.
C'est
et à écouter, c'est magnifique aussi. Partiel, Gérard Griset, c'est un compositeur qui est, je trouve, complètement sous-évalué. Voilà. Pour moi, c'est un génie, ce mec, et c'est dommage qu'il ne soit pas plus connu. Et pour la réponse bête, je sais pas, j'hésite. Hein. J'ai envie de dire. Ouah, non, faut pas déconner non plus. Allez, pas de PNL. Non. Non, j'hésite entre Bomb Track de Rage Against the Machine.
Un bon classique.
Et Liquid Swords de Jeza.
Yeah.
Et sinon, Amber Duquet de Kang Din Ray aussi. Ah, il y a trop de tracks là. C'est chaud.
On arrive à la fin. Et okay. On aimerait bien te remercier chaleureusement.
C'est très intéressant, on a appris plein de trucs. Et on espère que ça vous aura plu, ce petit podcast numéro 2 de Pépite. Donc on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.
Merci, au revoir.